Aujourd'hui, nous allons donc nous intéresser au Saint-Sacrifice de la messe. À l'origine, je pensais m'arrêter simplement à une explication de la messe. Et ensuite, je me suis dit qu'il serait intéressant de faire un parallèle avec le nouveau rite, tel qu'il a été publié en 1969 par le pape Paul VI. Nous intéresserons donc aujourd'hui aux prières et au rite de la messe, dans le rite de 62, la messe dite de Saint Pie V, et le rite de 69, dit de Paul VI. Il faut nous rappeler, avant de commencer, ce qu'est un sacrement. Un sacrement est un signe sensible qui produit la grâce qu'il signifie. Le sacrement et la liturgie aussi, eh bien, sont dans l'ordre du signe. Ce sont des rites qui, eh bien, ont une signification. Le sacrement lui-même produit la grâce, mais tout ce qui entoure le sacrement, pour l'Eucharistie, le sacrement, c'est les paroles de la consécration, tout ce qui entoure le sacrement est là pour indiquer, signifier ce qui se réalise réellement au cours du sacrement dans la partie centrale de la messe, qu'est la consécration. Voilà pourquoi, dans cette étude des différents rites, nous nous arrêterons surtout à la signification de ces rites, car c'est cela qui compte. Ce qui fait la valeur d'une liturgie, c'est sa capacité à signifier adéquatement les réalités surnaturelles qui se déroulent à l'autel. La méthode que nous suivrons, eh bien, nous verrons d'abord le rite de Saint Pie V, qui est le plus ancien, et nous verrons ensuite, pour chaque partie de la messe, le nouveau rite. Pourquoi avoir en premier le rite de Saint Pie V ? Tout d'abord, en raison de son ancienneté. Saint Pie V, en réalité, n'a fait lui que codifier, que préciser et fixer ce qui se faisait dans l'Église depuis déjà longtemps, parfois même, pour la plupart des rites, depuis les débuts de l'Église, depuis les apôtres. Donc nous verrons d'abord ce rite, et nous verrons ensuite le nouveau rite, car il est une modification, une réforme de la liturgie. Et cette réforme, pour bien la comprendre, il faut la voir à la lumière de ce qui existait auparavant. La suppression d'un rite, une modification, un ajout, prend tout son sens, toute sa signification, par rapport à ce qu'il modifie. Pour cette étude, je me suis servi de divers ouvrages. Pour le rite de Saint Pie V, j'ai utilisé le livre de Pierre Lebrun, « Explication des prières et cérémonies de la messe ». Il s'agit d'un ouvrage publié en 1716 par un prêtre de l'Oratoire de France. Pourquoi j'ai utilisé cet ouvrage ? Il a l'avantage d'être parfaitement objectif par rapport à la nouvelle messe, puisqu'il ne la connaissait pas au XVIIIe siècle. Le second ouvrage consulté pour la messe traditionnelle, en plus bien sûr du missel lui-même, c'est l'ouvrage de M. l'abbé Joly, « La messe expliquée aux fidèles », que je peux vous recommander, où il explique avec soin chaque rite. Il est encore disponible aux éditions Clovis. Pour le nouveau rite, je me suis inspiré de plusieurs ouvrages du missel, tels que publiés par le pape Paul VI en 1969. J'ai pris l'édition officielle, dans sa traduction française et latine. Je n'ai pas pris évidemment toutes les variations que l'on a pu connaître ici ou là, car le rite, le nouveau rite est un rite par nature mutant. Il n'est jamais dit de la même manière ici ou là. Donc là, nous nous arrêtons au rite tel qu'il a été défini officiellement par l'Église. Je me suis aussi inspiré de l'Institutio Generalis Missale Romanum, en français, la présentation générale du missel romain. Il s'agit en fait de l'équivalent des rubriques. Dans les missels, vous avez sans doute remarqué, le missel ancien, ces petites notes en rouge qui expliquent la manière de célébrer la messe, de poser les actes liturgiques. Eh bien, pour le nouveau rite, cette présentation générale, qui est beaucoup moins impérative que les rubriques telles qu'on le connaissait, qui se contentaient assez sèchement de dire « le prêtre fera ci, agira de la même manière », là, on explique beaucoup plus la signification, le pourquoi des rites employés. Et c'est assez précieux pour comprendre en profondeur la nouvelle messe. On y trouve notamment la définition de la messe à l'article 7 et beaucoup d'autres éléments. Cette édition a été modifiée en 1975 par l'ajout d'une préface qui est beaucoup plus conservatrice. Pour moi, je m'arrêterai au texte original, celui de 70, de 69, pardon, qui a l'avantage de correspondre parfaitement au rite tel qu'il a été publié. Je me suis aussi inspiré d'une revue publiée aux éditions du Cerf en 69, La Maison Dieu, revue du Centre national de pastorale liturgique en France, qui sont le fer de lance du progressisme en matière de liturgie, mais qui ont fait des analyses de très grande valeur. Cet ouvrage, d'ailleurs, a, d'une certaine manière, reçu une consécration par cet ouvrage, qui, lui, est officiel. Il est préfacé par Mgr Favreau, président de la Commission internationale francophone pour les traductions de la liturgie. Et il cite, comme explication de la messe, la Maison Dieu, comme un très bon commentaire de la présentation générale du missel et de l'Ordo Missae. On peut donc l'utiliser comme ouvrage de référence. Je me suis enfin servi du bref examen critique des cardinaux Ottaviani et Bacci. Il s'agit d'une lettre que ces cardinaux avaient écrit en 69 au pape Paul VI pour lui demander de retirer la nouvelle messe et qui émet un certain nombre de critiques face à la nouvelle messe. On le trouve dans cet ouvrage publié chez Clovis, La messe catholique, qui contient tous les textes de référence pour le nouveau rite, aussi bien donc le livre de l'abbé Bonnetaire sur le mouvement liturgique, que le livre de Don Guillou sur le canon romain, ou le bref examen critique. C'est actuellement une des meilleures critiques de la nouvelle messe qui a été faite et qui rejoint d'ailleurs fortement l'ouvrage de la Maison Dieu. L'esprit n'est pas le même. Les uns pour s'en féliciter, les autres pour s'en plaindre. Pour mémoire, un ouvrage aussi de Denis Crouan, publié chez Tecky, La liturgie confisquée, donc la thèse de ce courant, est de revenir à une messe, nouvelle messe, mais conforme au rite de 69, sans toutes les excentricités et les abus qu'il y a pu y avoir depuis. Nous verrons donc, nous, ce qu'il en est de la nouvelle messe, telle que publiée par le pape Paul VI. La division du sujet, eh bien, cette conférence, ce sujet nous tiendra en plusieurs conférences. Dans cette première partie, nous traiterons, nous, de l'explication de la messe jusqu'au credo inclusivement, ou pour dans le nouveau rite, jusqu'à la prière universelle. Rappelons brièvement quel est le plan de la messe. Dans la messe, il y a traditionnellement deux parties. La messe des catéchumènes, auxquelles tous assistaient, à la fois les non-baptisés qui se préparaient au baptême, les pécheurs publics et les fidèles baptisés. Et dans l'Église primitive, suivez la messe des fidèles, que nous avons encore, qui commence à l'offertoire. Et cette messe était réservée aux seuls baptisés, était exclue aussi de la messe des fidèles, les pécheurs qui faisaient leur pénitence. Ils devaient sortir à la fin. Et là, c'est proprement la partie centrale de la messe, le renouvellement du sacrifice de la croix. Dans la nouvelle messe, il y a deux parties distinctes. Tout d'abord, la liturgie de la parole, jusqu'à la prière universelle, ce que nous verrons aujourd'hui, et ensuite la liturgie eucharistique, qui va de l'offertoire, pardon, de la présentation des dons, pour prendre un terme actuel, jusqu'à la fin de la cérémonie. Et le numéro 8 de la présentation générale du missel nous dit que la messe dresse la table aussi bien de la parole de Dieu que du corps du Seigneur, où les fidèles sont instruits et restaurés. Donc on voit bien ces deux parties qui ont des noms différents. Dans cette première partie, eh bien, nous verrons d'abord la préparation à la messe. Nous verrons ensuite le début de la messe proprement dit, les lectures, la proclamation de la foi ou le credo, et enfin la prière des fidèles ou la prière universelle qu'on ne trouve que dans le rite de 69. Et dans le cas de la présentation de la messe, j'aimerais parler d'un certain nombre d'objets qui sont requis pour la présentation, pour la célébration des saints mystères. Et ensuite, nous verrons, dans ces préparatifs à la messe, les prières au bas de l'autel que le prêtre prononce avant de célébrer à proprement la messe. Dans les objets du culte, il y a les ornements sacerdotaux, et les vases sacrés. Dans le rite de 62, 6 ornements sont requis pour le prêtre. La micte, l'aube, le cordon, le manipule, l'étole et la chasuble. Pourquoi des habits particuliers pour la messe ? Eh bien, en raison du caractère officiel de l'action du prêtre. Partout où il y a une action officielle, il y a des habits particuliers. On le voit pour la police, dans l'armée, pour les juges, les magistrats, ou même pour les avocats. Et il est naturel que pour les actes du culte, l'Église use d'ornements particuliers qui sont là pour à la fois honorer le culte divin, relever la majesté du culte et montrer un peu les fonctions différentes des différents ministres. Déjà en l'an 850, le pape Léon IV prescrit que nul ne dise la messe sans amicte, sans aube, sans étole et sans chasuble. Et à cette époque-là, ces ornements sont d'usage universel. L'amicte, tout d'abord, c'est une pièce de tissu rectangulaire avec deux cordons sur le haut que le prêtre porte autour du cou. Amicte vient de amichere qui veut dire couvrir. Et cela a pour objet de couvrir le cou du célébrant. L'amicte est introduit au 8e siècle. Et parmi les symbolismes de ce linge, c'est qu'il couvre le cou du célébrant pour indiquer que la voix du prêtre pour la messe doit être uniquement réservée à la louange divine. En le revêtant, le prêtre prononce les paroles suivantes : couvrez ma tête du casque du salut pour repousser les assauts du diable. Cela fait écho à saint Paul dans l'épître aux Éphésiens : revêtez-vous des armes de Dieu et prenez le casque qui est l'espérance du salut. Ce casque, cet ami, demande aussi à Dieu la grâce pour repousser totalement les tentations qui pourraient assaillir le prêtre au cours des saints mystères. Il y a ensuite l'aube, ce grand vêtement blanc, souvent orné de dentelles. Ce mot aube vient de alba, en latin, qui veut dire blanc. À l'origine, c'était la tunique longue portée par les gens de qualité dans l'Empire romain. Et naturellement, le clergé l'a adopté pour la célébration des fonctions ecclésiastiques. En la revêtant, le prêtre prononce les paroles suivantes : blanchissez et purifiez mon cœur, afin que, blanchi dans le sang de l'agneau, je mérite d'avoir part à la joie éternelle. Cette aube est donc le symbole de la pureté requise pour célébrer la messe. Et cette pureté, notons-le déjà, est obtenue dans le sang de l'agneau. C'est déjà une référence au sacrifice de la croix qui va être renouvelé dans quelques instants sur l'autel. Autour de l'aube, le prêtre porte le cordon ou la ceinture. C'est un usage habituel chez ceux qui portent un habit long afin de le retenir pour faciliter les mouvements. Le prêtre, en revêtant le cordon, dit : saignez-moi, Seigneur, de la ceinture de la pureté et éteignez en mes veines l'humeur de la libido, afin que demeure en moi la vertu de la continence et de la chasteté. C'est le symbole du célibat et de la chasteté parfaite que le prêtre doit garder. Le manipule, c'est cette bande de tissu ornée de même couleur que la chasuble que le prêtre porte sur le bras. Manipule, cela vient de mapula en latin, qui signifiait mouchoir ou petite serviette. C'était un usage chez les Romains, dans les pays chauds, de porter une serviette pour s'éponger le visage. Au XIIe siècle, eh bien, ce linge s'est paré. On l'a orné de broderies, d'ornements en or, et il perdit son usage initial de mouchoir. Mais il a conservé un sens figuratif, que rappelle la prière que le prêtre dit en revêtant cet ornement : que je mérite, Seigneur, de porter le manipule de douleur et de larmes pour recevoir avec joie la récompense du travail. Cela fait référence aux fatigues et aux peines du ministère ecclésiastique, qui, pour le prêtre, serviront à mériter les récompenses éternelles, car le mouchoir servait à essuyer la sueur du front. Cela fait référence aussi au psaume 125, celui qui marche en pleurant quand il porte la semence revient avec allégresse quand il porte ses germes. Celui donc qui a semé dans l'effort, avec joie, récolte, et en latin, Gerbe se dit aussi manipula. C'est l'ensemble de tiges de blé que l'on pouvait tenir en une main, d'où ce nom de manipule. Voilà un exemple comment des ornements qui avaient un rôle utilitaire au début, par la suite, ont pris un sens liturgique, un sens qui indique les vertus que le prêtre doit avoir pour célébrer la messe. Vient ensuite l'étole, cette bande de tissu que le prêtre portait autour du cou. Cela, elle s'appelait dans les 8 premiers siècles horarium. C'était un linge fin porté par les personnes de qualité et qui servait à essuyer le visage. Les orateurs en particulier l'utilisaient dans l'Empire romain. Et naturellement, les évêques, les prêtres et les diacres qui prêchaient ont adopté cet ornement pour s'éponger. Par la suite, elle a été ornée et elle n'a plus servi à son usage initial. Et c'est au IXe siècle que l'horarium commence à prendre le nom d'étole, stola en latin. Car on y a vu à cette époque les restes d'un vêtement long, d'un manteau que le prêtre aurait porté. Et ce vêtement était orné sur l'avant de deux bandes décorées et brodées. Au IXe siècle, on a attribué donc l'étole à cela, d'où ce nom d'étole. Et le prêtre, en revêtant l'étole, dit cette prière, « Rendez-moi la robe d'immortalité que j'ai perdue dans la prévarication de mes premiers parents, et bien que je m'approche indigne de vos saints mystères, que je mérite cependant la joie éternelle. » On le voit, cette robe est le symbole à la fois de la grâce divine et aussi des fonctions du prêtre. Vient enfin la chasuble, que le prêtre revêt au-dessus de tous les ornements, qui est elle. On le voit. Chasuble ou planeta en latin. C'était à l'origine un grand manteau que l'on passait par la tête. Un grand manteau rond avec uniquement un trou dans le haut et qu'on revêtait par le haut. Ceux qui portaient l'habit long, habituellement, avaient ce manteau qui couvrait totalement l'aube et protégeait les habits de la poussière. Depuis plus de 1000 ans, la chasuble est le symbole du prêtre. L'évêque, d'ailleurs, lors de l'ordination, remet à celui qui a reçu le sacerdoce la chasuble comme symbole de ses fonctions. Au XVe, XVIe siècle, ce très grand manteau a été raccourci, notamment sur les bras. Et on en est arrivé à l'ornement qu'on connaît aujourd'hui, qu'on appelle ornement boîte à violon, en raison de la forme qu'elle a devant. Et souvent aussi, ces ornements étaient ornés de croix, surtout pour les ornements dits gothiques, donc qui ont gardé cette forme plus ample, car elle symbolise aussi la croix de notre Seigneur que le prêtre porte. En la revêtant, le prêtre dit « Seigneur, qui avait dit « Mon joug est doux et mon fardeau léger, faites que je le porte de telle manière que je puisse mériter votre grâce. » Voilà donc quels sont les ornements que le prêtre revêt pour la messe. Dans le Nouvel Ordo, il y a apparemment peu de changements. On lit au numéro 80 de la présentation générale. Dans la sacristie, on préparera pour le prêtre l'aube, l'étole et la chasuble. Tous ceux qui revêtent l'aube utiliseront le cordon et la mycte, à moins qu'on ait prévu un autre arrangement. On a donc simplement, a priori, supprimé le manipule. Mais il est dit que pour la mycte et le cordon, un autre arrangement est possible. On lit au numéro 297 qui traite des ornements liturgiques. Le vêtement liturgique commun aux ministres de tout degré est l'aube, serré autour des reins par le cordon, à moins qu'elle ne soit confectionnée de telle manière qu'elle puisse s'ajuster même sans cordon. On mettra la mycte avant l'aube, après l'aube, et si celle-ci... On ne mettra pas la mime si celle-ci recouvre parfaitement l'habit commun. Donc si l'aube a un col assez haut pour cacher l'habit commun, eh bien la mime n'est pas requis. C'est ce qui a donné naissance à ce qu'on appelle les aubes de Thésée, qui ont cours de manière habituelle dans les célébrations. Je pense que vous avez tous vu cela. On voit là déjà comment on garde en apparence les ornements traditionnels, mais en fait, comment ils en viennent à disparaître. C'est assez subtil comme manière d'agir. Au numéro 299, il est dit « Le vêtement propre au prêtre célébrant pour la messe est la chasuble, à moins que ne soit prévu un autre vêtement à revêtir. » En cas de concélébration, seul le prêtre principal, le célébrant principal, porte la chasuble. Les autres ne portent que l'étole. Et dans la pratique, on voit aujourd'hui, plus personne ne porte la chasuble. Pour les ornements, on peut noter aussi quelques changements dans les couleurs. Les couleurs traditionnelles sont le noir pour les défunts, le violet pour les temps de pénitence, le rouge pour les martyrs, le blanc pour les saints qui n'ont pas été martyrisés, ou pour les fêtes de Notre Seigneur ou de la Très Sainte Vierge Marie. Le Vendredi Saint, on utilisait le noir, car par l'Église, jusqu'en 70, marquée par cela qu'elle était en deuil de son époux, le Christ. Dans le nouveau rite, pour le Vendredi Saint, on demande maintenant la couleur rouge. Le Christ n'est finalement plus qu'un martyr parmi d'autres. Il y a aussi la question des vases sacrés. Dans le rite de 62, on demande que les vases sacrés soient dorés. Il y a deux vases sacrés principaux, le calice et la patène, et le ciboire. Pour le calice, l'exigence était qu'il soit en métal et que l'intérieur de la coupe soit doré. Et cela est le minimum. Mais de manière normale, on demande même que la coupe, au moins, soit en argent massif doré à l'intérieur. Pour la patène, c'est cette même exigence d'argent massif doré, au moins du côté sur lequel repose l'hostie. Le ciboire, qui est le vase qui contient les petites hosties, lui peut être en métal, mais la coupe doit être dorée. Le calice est consacré par l'évêque avec le Saint-Crème, alors que le ciboire, lui, est simplement béni. Toutes ces exigences sont un signe extérieur des réalités sacrées, des marques d'honneur qui rendent visible pour tous, les prêtres comme les fidèles, que ce que ces vases contiennent, c'est le corps et le sang de Jésus-Christ. Cela nous donne un peu le sens du respect à avoir pour ce sacrement. Dans le Novus Ordo, il est dit que les vases sacrés seront faits de matière qui soit solide et que dans chaque région, tout le monde juge noble, ce dont la conférence épiscopale les juge, mais on donnera la préférence aux matières qui ne se brisent pas ni ne s'altèrent facilement. Donc plus aucune matière n'est requise, si ce n'est que cette matière pour la coupe du calice soit non poreuse, c'est-à-dire que la coupe ne boive pas le vin. Les vases sacrés destinés à recevoir les hosties, comme ciboire ou custode, ostensoir, peuvent être faits d'autres matières particulièrement estimées dans chaque région, l'ivoire ou certains bois. Les vases sacrés en métal qui peuvent rouiller doivent être dorés. Si ce métal ne rouille pas ou est plus digne que l'or, il n'est pas nécessaire de les dorer. On voit donc qu'il y a une baisse très forte des exigences en ce qui concerne les vases sacrés. Et c'est un signe de respect envers les saintes espèces qui disparaît. Et il y a là un danger réel que la foi des fidèles en la présence réelle dans l'Eucharistie bien disparaissent. On verra si c'est purement accidentel ou si le reste du rite, des rites de la nouvelle messe, va dans le même sens. On peut noter aussi que l'ornement principal dans le nouveau rite est l'aube. Et ce qui distingue finalement le prêtre des autres ministres du culte, c'est finalement uniquement l'étole en pratique. Il y a là encore une diminution de la distinction entre le rôle du prêtre et le rôle des fidèles. Après avoir vu les instruments du culte, voyons maintenant ce que dans l'ancien rite on appelle les prières au bas de l'autel. On les met dans cette partie relative aux préparatifs à la messe, car ces prières ont été introduites dans le missel de manière assez tardive. À la messe basse, est-il dit, le prêtre dit les prières au bas des marches après avoir préparé le calice et le missel à l'autel. À la messe chantée, le prêtre dit ses prières avec les servants pendant que la chorale chante le chant d'entrée. On trouve ces prières dans les missels à partir du IXe siècle, dans certains missels. mais à cette époque, on les trouvait de manière plus habituelle dans les manuels ou ordinaires des églises, qui indiquaient comment célébrer le culte dans chaque endroit. Ce n'est vraiment qu'avec Saint-Pie V, en 1568, que la messe a été vraiment rendue universelle partout. Autrement, en chaque lieu, il y avait quelques variantes, sans grande importance. Ces manuels, ou même ces missels, indiquaient divers lieux où ces prières avant la messe devaient être dites par le prêtre et les servants, soit à la sacristie, soit dans une chapelle privée, soit même à l'entrée du sanctuaire. Mais quoi qu'il en soit, dès le début, il y a des prières préparatoires à la messe qui n'étaient pas fixées. On demandait au prêtre de se préparer à célébrer les saints mystères par la prière. Elles n'étaient pas codifiées comme elles le sont aujourd'hui. C'est Saint-Pie V, en 1568, qui les fixe définitivement. Il s'agit dans ces prières d'une préparation du prêtre et des ministres, ainsi pour les messes basses, qu'une préparation des fidèles pour la messe proprement dite qui commencera par le chant d'entrée ou l'introïte. Dans ces prières au bas de l'autel, il y a trois parties. Le psaume 42, le psaume Judicame, qui indique le désir du prêtre d'aller vers l'autel. Il y a ensuite la confession de ses péchés, le confiteor, et la prière que fait le prêtre en montant les marches de l'autel pour demander à Dieu la grâce de le faire avec une entière pureté. Voyons d'abord le psaume Judicame. Le prêtre, arrivé au bas de l'autel, fait le signe de la croix. Ce signe de la croix remonte, selon certains, au jour de l'Ascension, où notre Seigneur aurait béni ses apôtres avec ce signe. Dans le signe de la croix, il faut voir un rappel du mystère de la Sainte Trinité et un rappel de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Au début de la messe, ce signe de croix a un sens tout particulier, car le prêtre va dans quelques instants renouveler le sacrifice de la croix en l'honneur de la Sainte Trinité, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Par le baptême, tous, fidèles comme le prêtre, sont devenus fils de Dieu. Et en raison de leur baptême, du caractère reçu au baptême, ils ont la capacité d'offrir le sacrifice avec le prêtre au nom des trois personnes. Au nom du Père, qui a donné son Fils pour être immolé, au nom du Fils, qui s'est donné pour être immolé, au nom du Saint-Esprit, par lequel le Fils s'est offert. Voilà donc le sens qu'a le signe de croix tout au début de la messe. Suit ensuite le psaume et l'antienne. L'usage de ce psaume et de cette antienne sont très anciens. On voit les premières traces vers l'an 600. Et saint Ambroise, au IVe siècle, nous dit que l'antienne « Introibo ad altare Dei, ad eum quietificat juventutem meam » se disait lors des veillées pascales ou à la Pentecôte, quand il y avait le baptême des catéchumènes. Ces nouveaux baptisés qui allaient recevoir pour la première fois notre Seigneur présent dans l'Eucharistie récitaient cette prière en montant à l'autel. Donc on voit le sens, je montrerai vers l'autel de Dieu, vers Dieu qui réjouit ma jeunesse. C'est la jeunesse de ces âmes fraîchement baptisées qui étaient parfaitement pures, parfaitement saintes, jeunes par la sainteté qui était en elles. On y voit aussi le sens de la joie qu'il y a à entrer en Dieu. C'est la lantienne qui est ensuite suivie du psaume 42. Ce psaume 42 a été composé par le roi David, sans doute lors de la révolte de son fils Absalom. Absalom, vous le savez sans doute, a voulu prendre le trône de son père, et David a dû fuir Jérusalem. C'était là le châtiment de son péché, notamment avec Bethsabée, l'épouse d'Uri. Uri qu'il a fait ensuite massacrer au combat devant les Philistins. Et ce psaume exprime le désir que David avait de rentrer à Jérusalem pour pouvoir de nouveau se recueillir devant Dieu dans les tabernacles. Le temple de Jérusalem n'était pas encore construit et l'arche d'alliance reposait encore sous la tente comme lors des 40 ans au désert. Et ce psaume est appliqué ici à la messe. Il exprime pour le prêtre à la fois, pour le prêtre et les fidèles, à la fois le trouble, le désir de s'approcher de l'autel et la confiance en Dieu. On reconnaît son indignité et on désire s'approcher quand même de l'autel. Jugez-moi, Seigneur, et discernez ma cause des peuples non saints. De l'homme inique et trompeur, délivrez-moi. Là, le prêtre proteste de son innocence. Et s'il est en butte aux ennemis, eh bien, c'est à cause de sa fidélité à Dieu. Parce que vous êtes ma force, Seigneur, mon Dieu. Pourquoi me repousser et pourquoi tomber dans la tristesse alors que mon ennemi m'afflige? Eh bien, dans les troubles, les difficultés, on s'adresse à Dieu pour demander sa force et son secours. Emite lucem tuam, envoyez votre lumière et votre vérité, elles me conduiront à votre montagne sainte et dans vos tabernacles. On voit là donc le tabernacle de Jérusalem dont parlait David. Et par la lumière de Dieu, par la vérité, cette vérité qui est le Christ, le prêtre s'apprête à monter jusque dans le tabernacle, devant l'arche d'alliance, où Dieu réside, ce qui se passera à la consécration, où Dieu sera là, réellement présent, d'une manière encore plus réelle que dans l'arche d'alliance. Et introibo ad altare Dei, on reprend l'antienne. Contuitebor tibi in citara deus deus. Je vous confesserai, Seigneur, sur la citar. Pourquoi es-tu triste, ô mon âme, et pourquoi te troubles-tu? Espère en Dieu, parce que je l'ai loué. Donnez-moi votre salut, mon Dieu. C'est là la joie et la louange que l'on a quand on est certain d'être soutenu par la force et la miséricorde du divin. Et ensuite vient le Gloria Patri, qui est une louange à la Trinité. Après ce psaume, qui exprime ce désir d'aller vers Dieu, suit l'Adutorium Nostrum in nomine Domini. Notre secours est dans le nom du Seigneur, qui a fait le ciel et la terre. C'est l'affirmation de la toute-puissance divine, et que notre confiance, notre sûreté pour monter vers l'autel ne vient pas de nous, mais de la grâce et du secours divin. Le psaume 42 est omis aux messes des défunts, ainsi qu'au temps de la passion. Pour les défunts, car c'est un psaume qui exprime la joie, pourquoi es-tu triste, mon âme, pourquoi te troubles-tu? Et cela ne convient pas lors d'une messe des défunts, et aussi en raison de l'antiquité de ces messes, au temps de la passion ou aussi messe des défunts. Car on l'a vu, ce psaume est apparu assez tardivement. Les prières obligatoires sont apparues tardivement. Suit ensuite la confession des péchés, le confiteor. Il y a là une double confession des péchés. Le prêtre commence le confiteor, les fidèles répondent miserator tui. Les fidèles récitent le confiteor, le prêtre demande la miséricorde des fidèles, miserator vestri omnipotens Deus, et il termine par l'indulgentiam, que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous accorde le pardon, l'absolution et la rémission de nos péchés. Le confiteor est en usage à Rome depuis le XIIe siècle et il s'est étendu à toute l'Église. Cependant, l'usage de confesser ses fautes avant la messe remonte au premier siècle de l'Église. La Didache, la doctrine des apôtres, qui date de la fin du premier siècle, avant même la mort de Saint Jean, qui est mort au début du deuxième siècle, la Didache écrit « Au jour du Seigneur, réunissez-vous, rompez le pain et rendez grâce après avoir confessé vos péchés, afin que votre sacrifice soit pur. » Donc cette confession est l'expression du rite tel qu'il se pratiquait au temps des apôtres, même s'il a pris une forme plus développée ou différente de ce qui a pu se faire. Et la confession de nos fautes est nécessaire, car nul n'est sans péché. Et si nous avons le repentir de nos fautes, Dieu, dans sa miséricorde, nous pardonnera. En effet, une âme qui n'a que des fautes vénielles, c'est-à-dire qui peuvent être pardonnées, si elle a le repentir, unie à la charité, elle obtient le pardon de ses fautes de Dieu. pourvu bien sûr qu'on prononce ces paroles avec attention. Pendant le confiteor, on se frappe la poitrine pour nous reconnaître coupables du péché. Pourquoi la poitrine? Parce que c'est de notre propre cœur que vient le péché. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme, dit notre Seigneur, qui souille l'homme, mais ce qui sort du cœur de l'homme. On invoque aussi divers saints dans le confiteor, la très sainte Vierge Marie, car elle est le refuge des pécheurs, qui est la consolatrice des affligés. Toute grâce aussi vient par elle. On invoque saint Michel Archange, qui est le vainqueur des démons, le défenseur de l'Église. C'est lui aussi qui, lors du jugement dernier, fera la pesée des âmes. On le voit souvent représenté sur les tympans de nos cathédrales, tenant la balance avec les bonnes actions d'un côté et les mauvaises de l'autre. Et on invoque saint Jean-Baptiste, qui a prêché un baptême de pénitence. On invoque saint Pierre et saint Paul, saint Pierre qui tient les clés du royaume des cieux, le portier du paradis, saint Paul qui est l'apôtre des gentils. Il y a aussi une autre raison, c'est que ces deux apôtres ont tous les deux été de grands pardonnés. Dieu leur a donné, accordé son pardon. Saint Pierre pour son triple reniement, saint Paul pour avoir persécuté l'Église de Dieu. On invoque tous les saints. On invoque deux fois ces saints. Dans la première partie du confiteor, on accuse ses fautes. Je confesse à Dieu. Dans la seconde partie, on demande à Dieu la grâce de ne plus retomber. Et il faut, je dirais, surtout dans cette partie de la messe, prêter attention qu'on ne prononce pas seulement des mots, mais que nous ayons au plus profond de nous-mêmes bien cette douleur de nos fautes, afin d'obtenir ces grâces de pardon pour nos péchés, pour suivre la messe avec davantage de fruits. Après cela, le prêtre et les ministres continuent leur dialogue qui exprime bien ce désir du pardon. Dominus vobiscum. Eh bien, cette salutation retentit 7 ou 8 fois au cours de la messe. Et à chaque fois, elle marque le début d'une nouvelle action liturgique. On voit ça pour les rites de l'entrée, pour les lectures, pour le canon, pour la communion. Cette salutation est très belle. Souhaitez que le Seigneur soit avec vous, c'est-à-dire que Dieu réside dans notre cœur par sa grâce. Et elle se trouve dans l'Écriture sainte très souvent. Ici, le prêtre ne se tourne pas vers les fidèles pour le dire, car il s'adresse en fait aux servants qui l'entourent. Voilà pourquoi il ne se retournera pas comme il le fera par la suite. En montant à l'autel, le prêtre prononce 2 prières, donc l'offer anobis et l'ora musté. Enlevez nos fautes, Seigneur, pour que nous puissions pénétrer jusqu'au sein des saints avec une âme pure, par le Christ notre Seigneur. Cette prière est dite au pluriel, car il l'a dit en son nom propre et au nom du diacre et du sous-diacre qui l'accompagne à la messe solennelle. Cela rappelle qu'il faut une sainteté éminente pour offrir le sacrifice de la messe. Il est dit pénétrer dans le Saint des Saints. Dans le temple de Jérusalem, il y avait plusieurs parties. Le parvis des gentils, des païens, le parvis des femmes, le parvis des hommes, sur lequel se dressait le sanctuaire proprement dit, séparé en deux. Une première salle, le saint, dans lequel le prêtre pénétrait chaque jour pour offrir l'encens à Dieu. Et le saint des saints, dans lequel le grand prêtre seul pénétrait une fois l'an avec le sang des victimes. Eh bien, cette mention du saint des saints indique que le prêtre va offrir à Dieu, le Père, la victime sainte et sans tache, le sang de l'agneau immolé, Jésus-Christ. On y voit donc déjà là une allusion au sacrifice qui suivra. Suit l'ora musté, le prêtre monte à l'autel, embrasse les reliques qui sont dans la pierre d'autel. Notons que ces reliques ne sont plus exigées dans le Novus Ordo si la messe est dite sur un autel qui n'est pas fixe. Et là, il demande encore à Dieu le pardon de ses fautes. Dans la première prière, il fait appel à la médiation de notre Seigneur. Dans cette prière, il fait appel à l'intercession des saints. Nous vous prions, Seigneur, par les mérites de vos saints, nous avons ici les reliques, et de tous les saints, daignez pardonner tous mes péchés. La prière ici date du Xe siècle, mais le fait d'embrasser l'autel remonte, lui, à l'Antiquité chrétienne, au IIe siècle. Ce qui est honoré ici, c'est à la fois les saints, symbolisés par les reliques, mais aussi le Christ, car l'autel symbolise notre Seigneur Jésus-Christ. En effet, le sang a été répandu sur la croix, sur le corps de Jésus-Christ, qui était comme l'autel. Voilà donc quels sont les rites de préparation à la messe, tels que on l'a connu jusqu'en 1969. Le célébrant se prépare en exprimant d'abord son désir de monter à l'autel, c'est le psaume Iudicamé. Il implore le pardon de ses péchés pour lui-même et pour les fidèles, et enfin il monte à l'autel en priant Dieu de le purifier une fois encore, en raison de la sainteté de l'action qu'il va accomplir. Dans le Novus Ordo, toutes ces prières ont disparu. Les motifs invoqués pour cela, c'est d'abord leur caractère tardif. Elle remonte au IXe siècle. On peut noter cependant que l'Église a toujours prescrit des prières de préparation à la messe, même si elles n'étaient pas fixées. Et d'ailleurs, si ces prières ont été fixées, c'est pour répondre à certains abus. On voit dans plusieurs conciles locaux des exigences. On interdit aux prêtres de réciter les prières ou les psaumes de préparation à la messe en allumant les cierges ou en préparant les burettes. Donc pour éviter cela, eh bien, l'Église a demandé que ça se passe au pied de l'autel. Une autre critique faite à ces prières au bas de l'autel, c'est leur caractère un peu anachronique ou absurde, dans la mesure où elles, à la messe chantée, elles sont dites pendant que tout le monde chante l'introïte. On trouve ce chevauchement anormal. Mais nous l'avons vu, c'est d'abord une prière de préparation du prêtre et des ministres pour offrir la messe. Avec cette disparition, eh bien, c'est la notion de péché qui est un peu effacée de la nouvelle messe. Il n'y a plus cette accusation des fautes aussi nette. Certes, on le verra, il y a dans la partie suivante une préparation pénitentielle, mais qui est réduite à très peu de choses et qui est beaucoup moins explicite que ce qu'il y avait dans l'ancien rite. Et la présence de ces prières de pénitence au début de la messe est encore un signe du lien très fort qui existe entre le sacrifice de la croix, le sacrifice de la messe, c'est la même chose, et le pardon des péchés. Nous allons maintenant aborder la messe des catéchumènes, proprement dite. Il s'agit de la première partie de la messe. Son nom, nous l'avons vu, vient du fait qu'à cette messe, les catéchumènes seuls étaient, tous étaient admis, les catéchumènes étaient admis, alors que dans la seconde partie, les catéchumènes n'étaient pas admis, d'où ce nom de messe des catéchumènes. Il s'agit ici, pour le prêtre et les fidèles, dans le rite ancien, de se préparer, par la prière et la méditation de l'Écriture sainte, à offrir le sacrifice de la croix. Il y a trois parties dans cette messe des catéchumènes. Les rites d'entrée, tout d'abord, de l'introït jusqu'à la collecte, les lectures, avec l'épître et l'évangile, et dans le nouveau rite, eh bien, on verra, a été ajoutée la prière universelle. Entre les deux, bien sûr, il y a le credo qui est la profession de foi de tous. Dans le rite, il est prévu, donc, quand le prêtre monte à l'autel, aux messes solennelles, que le prêtre encense l'autel. Nous reviendrons plus tard sur la signification de l'encens. L'introïte ou chant d'entrée. Donc là, nous sommes en page 1 pour l'ordo de 62. Eh bien, c'est le prêtre lit l'introïte au côté droit et commence par le signe de croix. C'est là, pour comment parler, le début de la messe, d'où le signe de croix qui apparaît à nouveau ici. Si il y a eu d'autres cérémonies avant la messe, procession, bénédiction des cierges, comme par exemple le 2 février ou au rameau, là, il n'y a pas de prière au bas de l'autel, car elle remplace la préparation à la messe, et la messe commence directement par le chant de l'introïte. Introïte vient de introitus, qui signifie entrée. Car c'est ce que l'on chante pendant que le prêtre entre en procession avec les servants. C'est un chant de procession qui est composé d'une antienne, généralement tirée de la Sainte Écriture, d'un verset d'un psaume, du Gloria Patri et de la reprise de l'antienne. À l'origine, on chantait un psaume en entier pendant que le prêtre entrait. Le chœur chantait un verset du psaume et toute la foule reprenait en chœur l'antienne, ce qu'on appelle les chants antiphonés. De cette manière-là, eh bien, cela a été plus facile pour le peuple de chanter, parce qu'il y avait un refrain que tout le monde connaissait. Par la suite, eh bien, on a raccourci et on s'est contenté d'un seul verset du psaume, comme cela se fait aujourd'hui et depuis le XIe siècle. À l'origine de la messe chantée, le prêtre ne lisait pas le chant d'entrée, l'introïte, car il l'entendait. Mais comme ce chant s'est orné par la suite, eh bien, il y avait des difficultés à le suivre et à le comprendre. Au 8e, 9e siècle, le prêtre lisait le chant d'entrée de son siège, comme cela se passe encore pour la messe pontificale, où l'évêque commence les prières au bas de le début de la messe en se tenant au trône. Et le prêtre ne montait à l'autel que pour offrir. C'est ce qui a été d'ailleurs remis en vigueur dans le nouveau rite. Après l'introïte, c'est le kyrie que le prêtre alterne avec les fidèles ou avec les servants. Le kyrie est une prière en grec, car le grec, au IVe siècle à Rome, était la langue liturgique. C'est d'ailleurs cette langue que parlait sans doute, que l'on parlait au temps de notre Seigneur et qui était en usage presque partout. C'était la langue internationale de l'époque. Pourquoi ce kyrie à cet endroit? Il s'agit probablement d'une survivance des litanies qui se faisait à la messe les dimanches et jours de fête. Et donc elles ont été réduites et il ne restait plus que ces invocations que l'on retrouve. D'ailleurs dans nos litanies. Kyrie eleison, Christe eleison. Au VIe siècle, prière en usage à Rome est adoptée en Avignon et elle se répand partout dans l'Église. Jusqu'au XIIe siècle, on supprimait d'ailleurs le kyrie quand on chantait les litanies avant la messe. Et c'est ce qui reste encore pour la veillée pascale, où l'on chante la litanie des saints, le prêtre ensuite va revêtir des ornements pour la messe, et quand le prêtre revient, il n'y a pas de kyrie, car les litanies ont été chantées auparavant. Le sens de cette prière, c'est « Seigneur, ayez pitié de nous, Christ, ayez pitié de nous ». Il y a trois fois trois invocations en l'honneur de la Sainte Trinité. Et pour le Fils, on dit « Christé », ce qui veut dire « moi, celui qui a reçu l'onction ». Les rois, les prophètes, les prêtres recevaient dans l'Ancien Testament une onction d'huile, encore maintenant pour les prêtres, lors de leur ordination. Notre Seigneur, lui, est dit « loin, celui qui a reçu l'onction », car cette onction, elle l'a reçue par l'union des deux natures, humaine et divine, dans l'unique personne du Verbe. Dans les quatre premiers siècles, cette prière se disait chez les Grecs pour les catéchumènes. Ces prières de demande sont très fréquentes dans l'Écriture sainte. Il y a donc ensuite le chant du Gloria. Cet hymne est très ancien. Saint Athanase en parle déjà dès le IVe siècle et il dit que les chrétiens d'Orient la récitaient souvent par cœur. Le Gloria est dit au dimanche et fête depuis le VIIe siècle. À une époque, il était réservé, sauf à la fête de Pâques réservée aux évêques, et puis ensuite, son usage s'est répandu aussi pour les prêtres. Et dès le XIe siècle, le Gloria est dit aux messes. Les premières paroles du Gloria sont tirées du chant des anges dans la nuit de Noël. On nommait le Gloria aux messes des morts, car il ne convient pas qu'il y ait cette manifestation de joie, et aux messes des temps de pénitence ou aux féries, pour aussi ces raisons de tristesse et de pénitence. Quelle est la signification de cette prière? Après avoir demandé miséricorde à Dieu, dans le Kyrie, on se met à louer Dieu et à le glorifier pour sa miséricorde qu'il nous a accordée en notre Seigneur Jésus-Christ. Et les trois personnes de la Sainte Trinité sont honorées au cours de cet hymne. Tout d'abord, une action de grâce au Père par Jésus-Christ pour la création et pour la rédemption, supplication au Fils ensuite, et enfin, invocation au Saint-Esprit à la fin, que certains estiment plus tardive. Dans cet hymne, on trouve aussi les quatre fins, les quatre buts de la messe. Tout d'abord, l'adoration. Nous vous louons, nous vous bénissons, nous vous adorons. L'action de grâce. Nous vous rendons grâce pour votre gloire immense. Le pardon des péchés. Vous qui enlevez les péchés du monde, ayez pitié de nous. Et enfin, l'aspect propitiatoire. Obtenez des grâces de Dieu. Vous qui enlevez les péchés du monde, accueillez notre prière. Donc déjà là sont résumés tous les buts de la messe. Après le Gloria, le prêtre prononce la collecte. Il baise l'autel, se retourne, dit Dominus vobiscum. Et là, pourquoi le prêtre embrasse l'autel et se retourne vers les fidèles? Cela a un sens. Cela indique que le prêtre est l'intermédiaire entre les hommes et Dieu. Il est là pour présenter à Dieu les prières des fidèles et pour faire descendre sur les fidèles les grâces données par Dieu. Il salue donc le Christ en embrassant l'autel et les fidèles ensuite par le Dominus Vobiscum. C'est aussi un signe de l'union qu'il y a entre l'Église du ciel, l'Église triomphante symbolisée par les reliques des saints, et l'Église militante de la terre. Et ici, le Dominus Vobiscum marque un tournant dans la liturgie. Car après la préparation du Kyrie, du Gloria, eh bien, vient ici les prières. C'est ce qui marque, la collecte marque un peu le tournant entre la préparation et les lectures qui vont suivre. Dans la collecte, le prêtre demandera toutes les grâces nécessaires pour les fidèles, afin qu'ils entendent la parole de Dieu avec fruit. Le prêtre demande aux fidèles de s'unir à lui pour sa prière, Oremus, c'est le prêtre seul prononce les paroles, mais tous s'unissent à cette demande. D'où d'ailleurs le nom de collecte, car tous se rassemblent pour cette demande. Et dans la collecte, on trouve aussi, toutes les demandes et les vœux que les fidèles peuvent prononcer et désirer au cours de la messe. Ces collectes, en général, sont très belles. Les plus anciennes se reconnaissent par leur brièveté. Ainsi, par exemple, celle du 9e dimanche après la Pentecôte. Prêtez, Seigneur, une oreille compatissante aux prières de ceux qui vous implorent, et pour leur accorder ce qu'ils désirent, faites-leur demander ce qui peut vous plaire par notre Seigneur Jésus-Christ. Les plus récentes, elles, sont souvent plus longues. Quand il s'agit d'un saint, on prend un fait ou l'autre de sa vie, et de là, on en tire une application spirituelle et une demande à Dieu. Par exemple, celle de saint Raymond de Bénafort. Dieu qui avait choisi le bienheureux Raymond pour en faire un ministre insigne du sacrement de pénitence et qui lui avait miraculeusement fait traverser la mer, rendez-nous capables, par son intercession, de produire de vrais fruits de repentir et de parvenir au port du salut éternel. Par notre Seigneur Jésus-Christ. Et cette prière se termine toujours donc par la doxologie, par le Christ, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec vous dans tous les siècles des siècles, ainsi soit-il. Qui rappelle donc le mystère de la Sainte Trinité et toute l'économie du salut qui passe par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà donc quels sont les rites d'entrée dans le rite traditionnel. L'entrée du clergé, l'introïte, l'imploration de la miséricorde, le Kyrie, la louange de Dieu, le Gloria, et les demandes de grâce, notamment pour accueillir la parole de Dieu, qui est la collecte. Dans le Novus Ordo, c'est donc la page 1, la colonne, deuxième colonne, vous voyez, séparée par le trait noir. Il y a en apparence assez peu de changements. Beaucoup d'éléments sont communs, on retrouve le chant d'entrée, le Kyrie, le Gloria. Mais il faut voir si la signification est la même que dans l'ancien rite. Ici, je m'inspirerai notamment d'un article de Claude Rosier dans La Maison Dieu qui indique bien quel est le sens de ces rites d'ouverture. à la lumière de la présentation générale du nouveau missel. Replaçons-nous tout d'abord cela dans une vue d'ensemble. Il y a la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. La liturgie de la parole est la célébration communautaire et ecclésiale de la parole de Dieu et des mystères de la rédemption. Ça, c'est la définition de la messe, où on voit donc ces deux parties. Et les rites d'entrée, c'est le numéro 24 de la présentation générale, dit que ces rites ont pour but, le but de ces rites est que les fidèles qui se réunissent réalisent une communion et se disposent à bien entendre la parole de Dieu et à célébrer dignement l'Eucharistie. Le but, donc, c'est de réaliser une communion, ou pour reprendre le terme d'un autre auteur, Paul Knud, de susciter l'assemblée. Nous verrons ce que cela signifie. Lorsque le peuple est rassemblé, tandis que le prêtre entre avec les ministres, on chante le chant d'entrée. Le chant d'entrée qui n'est dit d'ailleurs que quand il y a une présence de l'assemblée, qui est omis autrement. Dès le début, on le voit, l'accent est mis sur le peuple de Dieu qui est rassemblé, lorsque le peuple est rassemblé. Et l'assemblée, on le verra, a un rôle central dans la célébration. C'est l'assemblée qui est l'acteur principal de la liturgie. Et ce qui commence la messe, ce n'est pas l'entrée du prêtre, mais c'est la présence de l'assemblée réunie, du peuple. Après le chant d'entrée, vient le signe de croix. Certains ont critiqué ce signe de croix parce qu'ils voient que cela rompt justement ce mouvement de communion progressif qui se réalise entre les gens. Cela coupe un petit peu pourquoi un signe de croix au début de la messe. C'est un peu amusant d'ailleurs, mais c'est une critique qui est faite. Vient ensuite la salutation des fidèles. Il y a donc deux formules que vous avez donc sur la feuille. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous et avec votre esprit, ou le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. C'est, nous dit la présentation générale du missel, la communication entre le prêtre et les fidèles qui suscite l'assemblée. Cette communication est renforcée par le mot d'accueil qui unit tous les fidèles. Et une fois l'assemblée ainsi constituée, le rite peut se poursuivre. Cela manifeste, est-il dit, le mystère de l'Église rassemblée. Donc, une fois donc que l'assemblée a pris corps, eh bien, on peut continuer. Il s'agit maintenant de la préparation pénitentielle, ou l'acte pénitentiel, qui se fait selon trois formules. C'est en pages 1 et 2 que vous avez ça. La première formule est plus proche de ce qui se faisait traditionnellement, puisqu'il y a la récitation d'un confiteor réduit. Préparons-nous à la célébration de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs, et tous à ce moment-là récitent le confiteor simplifié, le prêtre avec les fidèles. On voit déjà, et ensuite, eh bien, le prêtre ne prononcera pas après cette prière l'indulgentiam, que Dieu nous accorde le pardon, l'absolution et la rémission de nos péchés, comme cela se fait dans l'ancien rite. Le prêtre ne dira rien, simplement, que le Seigneur nous fasse. Il y aura simplement l'équivalent du miséréatur qui suit. Il y a là, on le voit, une disparition de la distinction entre le prêtre et les fidèles. Ils sont mis sur le même plan. Il n'y a plus comme avant le prêtre qui s'accuse et les fidèles. Ils sont mis tous ensemble. C'est un signe. On verra si d'autres éléments viennent corroborer cela ou si c'est purement accidentel. Il y a la deuxième formule qui, elle, est très brève. Seigneur, accorde-nous ton pardon, nous avons péché contre toi, montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Voilà à quoi se limite l'aspect pénitentiel pour demander pardon à Dieu de nos fautes dans le nouveau rite. Et c'est assez bref. Et il y a une troisième formule qui anticipe le Kyrie. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver les hommes, prends pitié de nous, au Christ, etc. Voilà. Et trois fois, un texte est lu avec l'invocation « Prends pitié de nous ». Certains ont aussi critiqué la préparation pénitentielle, car aussi elle romprait l'unité de ce rite, eh bien, de d'union de l'Assemblée. Cela viendrait un peu comme un cheveu sur la soupe au moment où l'Assemblée se constitue. D'autres y ont vu, eh bien, l'Assemblée qui confesse le péché communautaire, le péché commun à tous. Après cela vient le Kyrie, qui est omis quand on a pris la troisième formule de la préparation pénitentielle. C'est, est-il dit, un chant d'acclamation et de demande de la miséricorde. Le Gloria, il demeure inchangé dans son texte. Claude Rosier reproche aussi, comme au Kyrie, au Gloria de briser la perspective de l'accueil et d'être là uniquement pour avoir le plaisir de chanter ensemble, donc ça serait assez inutile. En outre, disent ses auteurs, le Gloria double le Kyrie, Kyrie qui lui double la préparation pénitentielle. Donc si on suivait cet auteur, il resterait finalement assez peu de choses. Le chant d'entrée, donc l'entrée en procession, la salutation sans signe de croix, la préparation pénitentielle à la limite et l'oraison. Le sens du Gloria est celui-ci, l'Église rassemblée dans l'Esprit Saint glorifie Dieu le Père et l'agneau. On voit déjà ici le rôle d'intermédiaire du Christ, de médiateur du Christ, qui est mis entre parenthèses. On glorifie Dieu le Père et l'agneau, et non pas Dieu le Père par le Christ. Et encore, on retrouve cette notion, l'Église rassemblée dans l'Esprit Saint. C'est encore l'Église rassemblée, la notion de communauté, d'assemblée. La collecte, ou appelée maintenant l'oraison, c'est le numéro 32. Il y a en apparence peu de changements, si ce n'est que le Dominus Obiscum a été déplacé avant. Après un petit temps de silence, eh bien, elle est lue par le prêtre. Ce temps de silence est prévu pour prendre conscience que les fidèles, que le peuple se tient en présence de Dieu. Cette présence de Dieu ici est importante à noter, car on dit Dieu est présent, car eh bien, c'est à ce moment-là où l'Assemblée est constituée. C'est ce qu'on voit dans l'article 7 de la présentation générale du nouveau missel, article 7 qui est la définition de la messe dans le nouveau rite. C'est pourquoi ce rassemblement local de la Sainte Église réalise de façon éminente la promesse du Christ. Lorsque deux ou trois sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Cela est vrai, mais cette présence du Christ à la messe est bien plus que cette présence du Christ quand deux ou trois sont réunis en son nom. Entre l'ancien et le nouveau rite, il y a donc une similitude assez grande, on peut le dire, de cette partie de la messe. Cependant, la perspective est totalement différente. Et c'est là ce qui est gênant, ce qui est grave. Dans l'ancien rite, il y avait l'entrée du prêtre, l'imploration de la miséricorde, la louange de Dieu et la demande de grâce à Dieu. Dans le nouveau rite, eh bien, ces prières ont pour but de susciter l'assemblée, de faire communier tous les présents de façon qu'elles ne forment plus qu'un corps, qu'une assemblée qui sera l'acteur, le sujet propre de la liturgie qui suivra. À la fois de la liturgie de la parole et de la liturgie eucharistique. La messe n'est donc plus la prière des fidèles unis au prêtre, qui s'adresse au Père par le Christ, mais l'assemblée en qui le Christ est présent et qui célèbre le Père. Et cela est très net dans toutes les prescriptions, notamment celles qui concernent la disposition de l'Église en vue de la célébration communautaire. Je cite. Il faut que le plan d'ensemble de l'édifice sacré soit conçu de manière à offrir l'image de l'assemblée qui s'y réunit. À tel point d'ailleurs que dans les messes de groupe, ce sont des messes donc particulières qu'on a prévues en cas de groupe ou autre, où on peut faire certains changements, c'est un document un peu plus tardif, des années 70, eh bien on prévoit la simplification des rites d'entrée dans le cas où il y a une réunion qui précède l'Eucharistie, et donc on peut passer ces rites d'entrée ou les simplifier. Donc on voit bien, car, on peut le dire, eh bien la communion est déjà réalisée. Il y a des cas où le déroulement de la réunion qui précède l'Eucharistie a déjà permis de réaliser la communion des participants et leur préparation à bien entendre la parole de Dieu. Le célébrant, par une monition, mettra en valeur le caractère purement religieux de la célébration, et il sera à bon escient utiliser les différentes formes du rite d'ouverture proposées dans le missel. Donc là, si la communion est déjà réalisée, on peut abréger ces rites d'ouverture. Voyons maintenant les lectures, qui constituent la partie centrale de la liturgie de la parole ou de la messe des catéchumènes. Car on a vu, c'est déjà deux choses qui semblent bien différentes. Dans le rite de 62, notre Seigneur est venu ici-bas pour éclairer tout homme venant en ce monde. Il est la lumière du monde. Aussi, eh bien, avant de réaliser le sacrifice de la croix, eh bien, il convient d'entendre la parole de Dieu. Que notre Seigneur Jésus-Christ nous parle par sa parole. Comme cela s'est fait, notre Seigneur a commencé par prêcher pendant 3 ans avant de mourir sur la croix. Bien, dans la messe, c'est pareil. Dieu nous parle dans l'Écriture sainte et ensuite il s'offre sur la croix. L'Épître. L'origine de cette première lecture remonte déjà au rite de la synagogue. En effet, après la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, les apôtres ont célébré le culte et se sont inspirés des rites juifs. Et à la synagogue, on commençait les prières du sabbat par la lecture de Moïse et des prophètes. On a repris donc cette lecture dans les premières années du christianisme et on y a ajouté aussi la lecture des lettres des apôtres. Saint Paul écrivait aux chrétiens, Saint Pierre, et ces lettres, les communautés chrétiennes se les faisaient parvenir les uns aux autres. D'où d'ailleurs ce nom d'épître. Épître qui vient du latin epistola, une lettre. On disait les lettres des apôtres. On a donné aussi à cette lecture le nom d'apôtre pour la même raison. Au début, il y avait davantage de lectures, mais dès le 5e, 7e siècle, leur nombre a été réduit à une lecture avant l'Évangile. Sauf à quelques fêtes particulières, comme les quatre temps, mais il s'agit là de messes de vigile, où il y a davantage de lectures. L'épître est réservé au sous-diacre, ou, à son absence, au prêtre. Et s'il est chanté par le sous-diacre, le prêtre ne lit pas l'épître, mais simplement l'écoute, en étant assis à son siège. L'épître est généralement tiré des épîtres des apôtres, surtout de saint Paul, mais parfois aussi il vient de l'Écriture, de l'Ancien Testament. On lit l'épître avant l'Évangile, car il convient de mettre en premier ceux qui ont annoncé le Christ avant d'entendre parler le Christ lui-même. Les apôtres ou les auteurs sacrés de l'Ancien Testament étaient là pour annoncer le Messie. Et dans l'Évangile, on voit le Messie lui-même, notre Seigneur Jésus-Christ. Après l'épître viennent 3 chants, le graduel, l'alléluia et le trait. Le graduel, il s'agissait d'un psaume qui se chantait sur les degrés, donc les degrés de l'autel. Un chantre commençait par un verset du psaume, et toute la foule reprenait un refrain, et ainsi de suite. Avec le temps, eh bien, le refrain s'est orné davantage, et la foule n'a pas pu reprendre en entier, donc c'est la scola, une partie de la scola qui chantait. Le graduel est tiré de l'Ancien Testament, et il est là pour illustrer l'épître et l'évangile. Aujourd'hui, il est composé d'un répon, écrit en lantienne, chanté par toute la scola, et ensuite d'un verset, repris simplement par quelques chantres. Après le graduel vient l'alléluia ou le trait, selon le temps liturgique où nous sommes. Au temps pascal, eh bien, c'est l'alléluia. Au temps de pénitence, pendant le carême, c'est le trait. Le trait est encore un psaume qui se lit ou se chante d'un seul trait. D'où le nom de trait. Vous voyez, c'est très simple. Il ne se chante qu'au temps de pénitence, après le graduel, et contient au moins 2 versets d'un psaume, voire le psaume entier, comme on le voit notamment à la fin du carême, le dimanche de la Passion. À l'origine, le trait était placé après la lecture du Nouveau Testament, quand il y avait plusieurs lectures, lecture de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, alors que les graduels, eux, suivaient ceux de l'écriture de l'Ancien Testament. On le voit encore, comme c'est ainsi encore, au fait des quatre temps. L'origine musicale du trait, c'est une origine hébraïque et le trait est beaucoup plus simple dans sa forme mélodique. L'Alléluia, c'est un mot hébreu qui signifie « louer le Seigneur ». On le chante après le graduel. Le mot « Alléluia » est repris deux fois, suivi la seconde fois du jubilus, donc des variations de notes sur la dernière syllabe du mot « Alléluia ». Vient ensuite un verset tiré d'Écriture sainte ou d'une composition ecclésiastique et reprise de l'Alléluia. L'Alléluia manifeste bien la joie et la louange divine. Cette joie apparaît surtout dans le jubilus. Quelques fois dans l'année, il y a aussi une séquence, donc un poème qui est chanté. À Pâques, on a le Victime Pascal Laudes, à la Pentecôte, le Veni Sancte Spiritus, à la fête du Laudation, ou le Dies Irae aux messes des défunts. C'est Saint Pie V qui a réduit les séquences à ce nombre. Auparavant, elles étaient bien plus nombreuses, puisqu'on a recensé dans l'Église, au Moyen-Âge, jusqu'à 5000 séquences, donc 5000 poèmes. Donc, il n'y avait pas court partout, rassurez-vous. Benoît XIII, en 1727, a rajouté le Stabat Mater à la fête de Notre-Dame des Sept Douleurs. L'Évangile, ensuite, l'Évangile est précédé de deux prières du prêtre ou du diacre qui va le prononcer, afin de pouvoir l'annoncer dignement. Ces prières, vous les avez, donc c'est sur non, page 3 maintenant, ces deux prières en haut de la page 3, eh bien, expriment la pureté nécessaire qu'il faut pour annoncer l'Évangile. Purifiez mon cœur et mes lèvres, Dieu Tout-Puissant, qui avait purifié les lèvres du prophète Isaïe avec un charbon ardent. Daignez par votre miséricordieuse bonté me purifier pour que je sois capable de proclamer dignement votre saint évangile par le Christ notre Seigneur. Amen. Seigneur, veuillez me bénir, que le Seigneur soit dans mes lèvres, dans mon cœur et sur mes lèvres, pour que je proclame son évangile d'une manière correcte et digne. Cela donc indique cette pureté, cette sainteté pour annoncer l'évangile. Et ensuite, le missel est porté à droite. La lecture est précédée des trois signes de croix, donc sur la tête, sur le front, pour indiquer que nous devons porter cette foi, nous devons croire par l'intelligence aux vérités de la foi, sur nos lèvres pour le témoignage que nous devons porter, et sur notre cœur, de face à notre cœur qui signifie qu'il faut vivre cet évangile, donc appliquer dans notre vie de tous les jours l'évangile. L'encensement de l'autel, du missel, pardon, de l'évangile, par trois fois deux coups, ce qui est réservé d'ailleurs à Dieu, ou à ceux qui représentent Dieu, parce que c'est vraiment la parole de Dieu. Les cierges allumés, aussi à la messe chantée, qui sont signes de joie, et montrent que Jésus-Christ est la lumière du monde, qui éclaire les nations. L'évangile a été préparé, en fait, par l'épître et par les chants qui précèdent. C'est un petit peu donc le sommet de la messe des catéchumènes. À la fin de l'évangile, le prêtre embrasse l'évangile en disant cette prière, que les paroles de l'évangile effacent nos péchés. Car l'évangile a une vertu particulière pour convertir, pour nous aider à éviter le péché et pour aussi nous inviter au repentir. Seul le prêtre ou le diacre peut lire l'évangile. Voyons maintenant donc ce qu'il en est dans le Novus Ordo. Voyons ça assez brièvement, il est déjà tard. La partie principale, c'est la présentation générale numéro 33, la partie principale de la liturgie de la parole est constituée par les lectures tirées de la Sainte Écriture avec les chants qui s'y intercalent. Mais l'homélie, la profession de foi et la prière universelle la développent et la concluent. Car dans les lectures que l'homélie explique, Dieu adresse la parole à son peuple. Il découvre le mystère de la rédemption et du salut, et il présente une nourriture spirituelle. Et le Christ lui-même est là, présent par sa parole au milieu des fidèles. Cette parole divine, le peuple la fait sienne par ses chants, et il y adhère par la profession de foi. Nourri par elle, il supplie avec la prière universelle pour les besoins de toute l'Église et pour le salut du monde entier. Voilà donc, en résumé, la partie des lectures. Quelle est la signification ? En apparence, il y a assez peu de changements. Il y a dans le nouveau rite trois lectures au lieu de deux, une de l'Ancien Testament, une du Nouveau Testament, donc un épître, et l'Évangile. Il y a aussi deux chants intercalaires, l'équivalent du graduel, un psaume, et l'équivalent de l'Alléluia ou du trait. Il y a aussi quelques séquences que l'on peut dire si l'on le désire. Donc la structure est identique en apparence. En revanche, l'esprit, lui, n'est plus du tout le même. Car la liturgie de la parole apparaît ici comme un tout organique. Autant dans l'ancien rite, elle est une préparation au sacrifice de la croix, au sacrifice de la messe, là, elle est un tout. Il y a deux parties à égalité dans la nouvelle messe, la liturgie de la parole et la liturgie eucharistique. Et cette liturgie de la parole s'achève par la prière universelle. Il y a deux tables aussi, la table de la parole et la table de l'Eucharistie. Et il est demandé que la table de la parole ne soit pas seulement un simple pupitre mobile, mais soit un objet fixe, définitif, dans l'Église. Il y a aussi deux présences du Christ différentes. Nous venons de le lire, Dieu adresse la parole à son peuple, et le Christ est là présent par sa parole au milieu d'eux. Les fidèles, par leurs acclamations, reconnaissent que le Christ y est présent et leur parle. Donc on insiste très fortement sur cette présence de Dieu dans l'Écriture sainte. On le verra après, d'ailleurs, que la présence de Dieu dans l'Eucharistie, elle, est plutôt mise un peu en veilleuse, alors que cette présence ici, dans la parole ou dans l'Assemblée, est fortement mise en valeur. Il y a aussi l'homélie qui est intégrée à la liturgie, qui fait maintenant partie de la liturgie, alors qu'avant ce n'était pas le cas. On le voit d'ailleurs dans l'ancien rite, puisque le prêtre dépose le manipule, voire même dépose la chasuble pour prêcher. Alors que là, c'est un acte à proprement liturgique. Avant, c'était un acte extra-liturgique, qui peut se faire d'ailleurs avant la messe ou à un autre moment, même si l'Église a souvent toujours demandé au prêtre de prêcher, surtout aux fêtes. La liturgie de la parole est en outre un acte communautaire. C'est la communauté qui agit. Car les lectures sont des actes ministériels et non présidentiels. C'est-à-dire qu'elles appartiennent aux différents ministères de l'Assemblée et non au président qui est le prêtre. Et c'est à d'autres que le prêtre de les prononcer. Pour les lectures de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, donc pour l'Épître, les deux Épîtres, c'est un lecteur qui peut être une femme. C'est le numéro 70. Il n'est pas nécessaire que le lecteur ait reçu une institution. Il n'y a d'ailleurs plus d'ordre de lecteur depuis le Concile. La seule exigence que l'on a pour le lecteur, au numéro 66-67, c'est qu'il sache lire à peu près correctement. Donc le prêtre ne doit pas lire ses lectures, sauf si c'est une messe sans peuple. Pour le graduel, l'Alléluia et les psaumes, les chants intercalaires, eh bien c'est un lecteur ou un psalmiste qui les entonne, et la foule reprend ensuite le refrain en chœur. Pour l'Évangile, il est demandé qu'il soit lu par le diacre ou par un autre prêtre. Et s'il n'y a ni diacre ni autre prêtre, à ce moment-là, le célébrant peut le dire. Tout cela montre bien que la liturgie de la parole est célébrée par l'Assemblée tout entière, avec tous ses différents ministères, comme il est dit, et non plus par le prêtre. Le prêtre n'est plus là que comme président, comme cela est dit assez souvent dans la présentation générale du missel. Voilà donc ce qu'on peut dire de la liturgie de la parole, telle qu'elle a été mise en vigueur à partir de 69. Et vient ensuite la conclusion des lectures. Dans l'ancien rite, les lectures sont conclues par le credo, qui est le symbole de la foi, un abrégé de la doctrine chrétienne. Credo est appelé symbole car c'était le signe de reconnaissance des chrétiens. Le véritable chrétien est celui qui adhère à toutes les vérités du credo. Le symbole des apôtres n'est pas le même, a connu quelques changements, quelques évolutions. Il y a le credo que nous récitons au début du chapelet, par exemple, qui n'est pas le même que celui que nous récitons à la messe. Celui que nous récitons au chapelet, c'est le symbole des apôtres. Celui de la messe est appelé celui de Nicée-Constantinople. Il s'agit en fait d'un développement du symbole donc, des vérités de foi telles que nous ont enseigné les apôtres et résumé les apôtres, à Nicée, afin de lutter contre les Ariens qui niaient la divinité de Jésus-Christ, on a développé le second article du credo. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu. Et par la suite, à Constantinople, en 381, il a fallu lutter contre les Macédoniens, qui, eux, niaient la divinité de l'Esprit-Saint. Voilà pourquoi on a développé ce qui concernait le Saint-Esprit. Je crois en l'Esprit-Saint qui est Seigneur, qui donne la vie, qui procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Voilà pourquoi ce credo est appelé de Nicée-Constantinople. Le credo n'est dit à la messe qu'à partir du VIe siècle, notamment en Espagne, afin de lutter contre les hérétiques macédoniens. Par ce biais-là, il fallait que tous proclament leur foi dans toutes les vérités, notamment la divinité du Saint-Esprit, et ça permettait de chasser, de mettre hors de l'Église les hérétiques. Le credo n'est pas toujours dit. On le dit en fait quand il y a beaucoup de fidèles, donc quand il est nécessaire de proclamer sa foi, ou en raison de fêtes particulières, comme par exemple la fête des apôtres, puisque c'est le symbole des apôtres, il est naturel qu'on le chante, qu'on le lise lors de ces fêtes. Dans le nouvel ordo, le credo n'a pas été modifié. Notons cependant un problème de traduction. Dans le credo, il est dit, parlant du Fils, « Engendré, non pas créé, consubstantiel au Père et par qui tout a été créé. » Ce terme consubstantiel indique que le Père, le Fils et le Saint-Esprit ne forment qu'un seul être, une seule substance. Donc ça signifie l'unité des personnes, l'unité des trois personnes en une seule nature, un seul Dieu en trois personnes. La traduction qui a été retenue en France est celle-là, « engendré, non pas créé, de même nature que le Père ». Et cela n'a pas le même sens, car nous tous ici, nous sommes de même nature, nous avons tous la nature humaine, et pourtant nous ne sommes pas, la Sainte Trinité. Donc là, d'ailleurs cette traduction a été assez souvent critiquée. La présentation générale du missel indique que le credo est dit par le prêtre et avec le peuple. Comme cela se faisait avant, mais on parle encore, vous voyez, de prêtre avec le peuple. Toujours cela revient comme un leitmotiv, cet aspect de la communauté. Et le credo, c'est le numéro 33, est une adhésion de la communauté à ce qui vient d'être dit dans les lectures et l'homélie. Toujours la communauté. Dans le nouveau rite suit enfin la prière universelle qui conclura la liturgie de la parole. C'est donc le numéro 47. C'est au prêtre célébrant de diriger la prière, d'y inviter les fidèles par une brève monition et de la conclure par une oraison. Il convient que les intentions soient proférées par le diacre, le chantre ou un autre, mais c'est toute l'assemblée qui exprime sa supplication, soit par une invocation commune à la suite des intentions, soit par une prière silencieuse. Donc, après le credo, le prêtre invite tous les fidèles à la prière, par un petit mot. Ensuite, il y a des intentions qui sont proférées, ou par le diacre, ou par un chantre, par un lecteur, ou par une dame, et toute la foule répond par un chant ou par le silence. C'est l'assemblée, vous voyez, qui exprime. C'est donc vraiment la conclusion, l'assemblée loue Dieu, chante Dieu. Le numéro 45, lui aussi, est assez clair. Dans la prière universelle, le peuple, exerçant sa fonction sacerdotale, supplie pour tous les hommes. Il convient que cette prière ait lieu habituellement aux messes avec peuple, etc. Qu'on la fasse pour la Sainte Église, les gouvernants, etc. etc. Ce qui est important à noter, c'est le peuple exerçant sa fonction sacerdotale. C'est vrai qu'il y a un sacerdoce universel des fidèles, en un certain sens, qu'ils peuvent s'unir à la messe de par leur baptême, qu'ils offrent unis aux prêtres par Jésus-Christ et le sacrifice de la croix, et ce n'est pas à proprement parler eux qui offrent le sacrifice de la croix, c'est le prêtre. Mais ici, on a encore celui qui exerce le ministère dans le nouveau rite, cela est très clair, c'est l'assemblée, ça n'est plus le prêtre. D'où l'importance, on le voit, des rites initiaux de constitution de l'assemblée. La conclusion, eh bien, elle se tire d'elle-même. Nous sommes en présence de deux rites qui finalement n'ont plus le même sens. Même s'il y a de certaines similitudes, il y a deux rites tout à fait différents. D'un côté, c'est une montée vers l'autel, vers le sacrifice de la croix. De l'autre, c'est l'assemblée qui se constitue et qui loue le Père, qui rend grâce au Père et qui manifeste sa foi commune par la lecture. Et le loup est conclu par cette prière universelle. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette première partie de la messe, en nous fondant uniquement sur les textes de la liturgie ainsi que sur les commentaires officiels. Pour l'ancienne messe, c'est plutôt les commentaires d'auteurs spirituels. Pour la nouvelle messe, ce sont des commentaires officiels. Alors nous verrons dans notre prochaine conférence, eh bien, si ce que nous avons vu ici est un accident et si cela est corrigé dans la suite, ou si on retrouve ces mêmes orientations qu'on peut résumer en deux points, je dirais même trois. Tout d'abord, le sacerdoce du peuple de Dieu, le sacerdoce de l'Assemblée, l'aspect communautaire de la messe, et aussi, eh bien, la disparition de partielle, mais quand même bien réelle, de tout ce qui relève du péché. Il n'y a plus ce lien entre la messe et le péché. Nous verrons donc ce qu'il en est dans la prochaine partie. Je ne sais pas s'il y a quelques questions à poser.